Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur Djoliba TV News, la première chaîne d'information du Mali, et dans votre émission, le QG de l'actu, votre émission hebdomadaire, dédiée justement à l'actualité nationale mais également internationale. Pour ce énième numéro de votre émission, une seule thématique que nous allons aborder dans ce sujet, à savoir diplomatie et sécurité, quelle attitude adoptée par les États du Sahel. Oui, parlant de la diplomatie, qu'est-ce que justement nos États doivent privilégier aujourd'hui et qui dit justement de la situation sécuritaire notamment. Nous allons nous pencher sur cette épineuse question entre nos différents pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. À ces pays, il faut ajouter aussi les pays auxquels nous faisons des frontières, notamment l'Algérie. Voilà, la Mauritanie, le Bénin, la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceci. Pour rappel, nous avons vu la semaine passée une visite, en tout cas, du tout nouveau président béninois qui a séjourné dans le pays pendant quelques heures de travail, en tout cas, une visite de travail et d'amitié qu'il a bien voulu accorder à notre pays. Nous allons revenir sur cette actualité avec le président de la transition régionale d'armée, Assimi Goïta. Nous allons aussi nous intéresser justement à la coopération entre le Mali et la Mauritanie. Nous l'avons aussi vu, une délégation ministérielle conduite par le ministre de la Défense de la Mauritanie qui avait été dépêchée par son président, à savoir Mohamed Ouldo Ghazouani, auprès du président de la transition, le général d'armée, pour en tout cas remettre un message. Qu'est-ce qu'il faut retenir justement de cette visite du ministre de la Défense mauritanienne? Nous allons aussi parler de cette main tendue de la Côte d'Ivoire. Oui, c'était justement à l'occasion de l'Euro Satori, en tout cas un salon dédié à l'armement, au cours duquel le vice-premier ministre, non moins ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, tenait Birahima Ouattara, qui a justement dit ceci, il affirme voilà, que la Côte d'Ivoire est en tout cas prête aujourd'hui à reprendre une coopération sécuritaire entre le Mali et le Burkina Faso. Pour finir, lors du conseil des ministres du vendredi dernier, nous avons vu en tout cas le Mali qui a justement nommé un nouveau consul général auprès de Tamara 7, c'est en Algérie. Que faut-il comprendre justement de cette nomination? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour éviter justement à ces différents pays une crise? Pourquoi justement ces États ont besoin d'avoir, sinon de maintenir une coopération? Pour parler de ce sujet, nous avons sur ce plateau M. Balo Sidi Kouba. Il est journaliste, directeur de publication des journaux Le Triomphe du Mali et les Carrefour. M. Balo Sidi Kouba, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Omar, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur Djoliba TV News. Un clin d'œil à la diaspora, une petite licorne à l'endroit de l'équipe de Djoliba TV News qui fait un excellent travail. Et au passage, je rends hommage à mes co-débatteurs qui, en ce moment, malgré la crise du carburant, ont pu faire le déplacement pour assister à cette émission. Encore une fois, bonne émission.
Merci à vous, M. Bado Sidi Kouba, d'avoir accepté notre invitation. À votre droite, Dr Alidi Agali-Wele, qui, en tout cas, fait son retour sur ce plateau. Il est analyste. Docteur, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Je suis très ravi et c'est un grand plaisir. Parler des questions d'actualité, parler de la sécurité, parler de la démocratie, c'est des axes vraiment stratégiques pour notre pays, pour nos pays, et pour vraiment voir les éléments sur lesquels nous pouvons amorcer et atteindre nos différents objectifs. Et ma disponibilité, elle est totale et pour ces questions essentielles de survie.
Merci, merci docteur Ali pour ces témoignages. Nous sommes là quand vous avez le temps, venez nous voir et tous ceux qui sont de l'autre côté, quand vous avez des idées, Djoliba, les portes de Djoliba sont toujours ouvertes pour les gens qui ont des idées, car ici, oui, nous discutons des idées, mais nous ne discutons pas des personnes. C'est un credo que nous nous sommes fixés. Voilà, il est toujours là, fidèle à son poste, toujours dans ses documents aussi. Vous l'avez compris, le QG sans Abdallah Yattara aujourd'hui, c'est quand même difficile. Hein? Alors, merci à vous, Abdallah Yattara, et bonsoir.
Bonsoir, M. Traoré, et merci pour l'invitation. Et salut à tous les travailleurs et tous les, ceux qui sont actuellement câblés sur Djoliba TV News. Salut à mes co-débatteurs et je profite quand même de l'occasion pour apporter mon soutien à tous les journalistes du Mali sans exception et particulièrement et singulièrement à ceux qui sont pris aujourd'hui de leur plume et de leur micro. Et bonne émission à nous tous.
Merci. Bonne émission à nous tous. Oui, Abdallah Yattara, nous l'avons dit, nous allons nous pencher sur en tout cas une seule question aujourd'hui, diplomatie et sécurité. C'est des questions transversales qui peuvent englober pas mal de sujets. Je disais tantôt, il y a le président béninois qui a séjourné dans le pays, c'était la semaine passée, une visite éclair de quelques heures, une visite de travail et d'amitié, a-t-on appris par en tout cas la cellule de communication de la présidence. Avant, en tout cas, son arrivée ici, nous avons quand même vu, lorsqu'il a été élu, sa toute première visite, c'était le Niger. Et ensuite, il s'est déplacé du côté de Burkina, la Côte d'Ivoire et le Mali. Qu'est-ce qu'on a retiré de cette visite du président béninois?
Je crois, sauf erreur de ma part, sa première visite, je crois que c'était le Nigeria.
Ah, le Nigeria.
Le Nigeria, oui. La deuxième étape, c'était le Niger, le Burkina Faso et le Mali, après le Sénégal et la Guinée-Bissau. Voilà, je crois que c'est, à mon avis, le président béninois peut-être avait une visite, j'appelle ça une visite de rupture, et pour qui c'est les relations qui ont été tendues entre le président sortant, Patrice Talon, et le président nigérien. Et je crois qu'on peut qualifier cette visite d'une visite de rupture. Parce que tout simplement, il veut, à mon avis, commencer son mandat d'abord en paix. Et vous savez, c'est un économiste chevronné et il a mené le Bénin à un certain niveau. Je crois qu'il sait que sans la paix, l'économie ne peut pas se développer. Je crois qu'il sait aussi qu'il serait bon d'avoir de bonnes relations avec les pays voisins, notamment les pays de l'Est, et pour pouvoir aussi rester en paix. Et je crois qu'il a compris que, et je l'ai toujours dit, je l'ai défendu cette position, c'est que j'ai dit que la CEDEAO n'avait pas compris que le verrou Mali, Burkina, Niger constitue aujourd'hui le verrou qui protège en réalité le reste des pays de la CEDEAO. Et si ces verrous venaient à sauter, je crois que ça n'est fini pour les autres pays de la CEDEAO par rapport à la lutte contre le terrorisme. Je crois qu'il a dû comprendre ça. Je crois qu'il ne peut mener cette lutte-là qu'en parfaite harmonie, en parfaite paix avec le Niger, avec le Mali et le Burkina, qui aujourd'hui constituent aujourd'hui les pionniers dans la lutte contre le terrorisme aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas se le cacher. Et je crois qu'ils ont dû se comprendre. Et même récemment, lorsque l'aéroport du Niger a été attaqué, il a dû condamner ça fermement et apporter son soutien au Niger. Comprenez, je crois qu'il a dû comprendre que sans paix, il n'y a pas de développement. Et je crois qu'il faut se mettre souvent au-dessus des égaux de certaines choses et pour vraiment vivre en paix, parfaite harmonie avec ses voisins.
Très bien. Oui, une visite de rupture, vous l'avez dit ainsi. Badou Sidi Kouba, justement, nous savons très bien que son prédécesseur, le président Patrice Talon, ce n'était pas en tout cas le grand amour entre le dirigeant sortant et les pays de l'AES. On sait très bien que les sorties étaient souvent très houleuses. Hein, voilà, c'était très houleux au niveau de certaines sorties entre le dirigeant Patrice Talon et ceux de l'AES. Aujourd'hui, que le nouveau président décide en tout cas de renouer, on a quand même vu même en tout cas que les frontières entre le Bénin et le Niger étaient carrément fermées. Aujourd'hui, avec cette visite, à quoi peut-on nous attendre?
Effectivement, le prédécesseur de Mouad Wadani, Patrice Talon et le chef d'État de l'AES, il y a eu une passe d'armes et qui a failli même dégénérer. Et il y a eu des accusations de part et d'autre. Il faudrait rappeler que Mouad Wadani s'est inscrit dans la rupture, c'est-à-dire qu'il a décidé de prendre une nouvelle orientation pour pouvoir réactiver la diplomatie béninoise. Parce qu'il sait qu'entre la CEDEAO et l'AES, et les deux entités n'ont d'autre choix que de collaborer, surtout en matière sécuritaire. Vous avez vu, il a effectué une mini-tournée ouest-africaine. Il a commencé par le Géant de l'Afrique, puis le Nigeria, où il a rencontré Bola Tinubu, qui est un des doyens de la région, pour prendre conseil auprès de lui, et pour essayer de faire des ouvertures économiques, et ensuite évoquer la question sécuritaire. Ensuite, il a passé par Niamey, au Niger. C'est là où le torchon brûle. Il a compris que et il fallait trouver une solution rapide parce que vous savez que le port de Cotonou et le port de Lomé sont en concurrence. Or, vous savez qu'on parle de sécurité, on parle de diplomatie, mais le caractère économique passe devant. Donc, il fallait prendre langue avec Tchani et vous rappelez qu'au plus fort moment de la crise entre les deux pays, l'ancien président Tomayayi Boni et M. Forceglou ont fait le déplacement de Niamey pour essayer de renouer le fil du dialogue. Donc, c'est la preuve qu'il fallait trouver une entente parce que. Et la raffinerie d'Agadem produit du brut et le brut passe par le port de Cotonou. Du côté de Manaville, à la frontière entre le Niger et le Bénin, les activités économiques sont intenses. Avec la fermeture de la frontière, ça a affecté tout le monde. Et au-delà, par rapport aux questions sécuritaires, le Bénin ne peut pas aller sans le Niger parce que il y a plusieurs attaques que le Bénin a connues. Et s'il y avait une collaboration entre les services secrets bénéniens et nigériens, on n'en serait pas là. Parce qu'à un moment donné, le Niger avait accusé le Bénin d'abriter des bases militaires françaises. Je crois que le malentendu a été aplani par Omar Wadani. Une solution est en passe d'être trouvée. Parce qu'à la vue même de l'installation de Omar Wadani au palais de la Marana, il faudrait le rappeler, les terroristes ont mené une attaque spectaculaire pour lui rappeler qu'il n'est pas le bienvenu. Donc, une façon de démontrer que le terrorisme n'a pas d'amis. Ensuite, il a passé par le Burkina, il a rencontré Ibrahim et les échanges ont été axés essentiellement sur les questions sécuritaires. Parce que le Bénin et le Burkina, quand même, c'est deux pays frontaliers. Et de part et d'autre des frontières, il y a des mouvements, il y a des attaques sporadiques. Donc, le terrorisme étant transnational, il fallait trouver un compromis. Il a passé par la Côte d'Ivoire également pour prendre conseil auprès d'Alassane Dramane Ouattara. On peut dire qu'il est le doyen des chefs d'État ouest-africains aujourd'hui. Malgré qu'il a tripatué la constitution, Omar Wadani, étant un économiste, a besoin des conseils de Ouattara qui a su transformer la Côte d'Ivoire en un Eldorado aujourd'hui. Ensuite, il a fait le tour du Mali. Ça, c'était une nécessité. Parce que vous savez que le Mali, aujourd'hui, est le point central même de la lutte contre le terrorisme. Pendant longtemps, on a dit que le Mali est le maillon faible. Et c'est le contraire qui est en train de se produire. Il veut faire la tour, rappeler, le Mali, c'est la digue qui fait que les pays côtiers sont protégés. Si la digue Mali tombe, c'est tous les pays côtiers qui vont tomber avec. Omar Wadani a compris cela. Et sur le plan sécuritaire, il a rappelé que sans le Mali, rien ne peut bouger. Donc il est venu rappeler aussi les liens fraternels qui ont toujours existé entre les deux pays. Naturellement, au passage, les questions économiques ont été évoquées. Vous savez que je l'ai rappelé tout de suite, entre le port de Cotonou et le port de Lomé, c'est la concurrence. Donc il fallait aussi échanger autour des questions économiques, des questions de transactions, etc. Parce que Omar Wadani s'est dit que au niveau du corridor Dakar-Bamako, ça ne va pas tellement. Au niveau du corridor Abidjan-Bamako, ça ne va pas. D'accord. Et Cotonou peut servir d'alternative.
D'accord. Merci beaucoup, M. Badoussi Dikoba, pour cet éclairage. Alors oui, qu'est-ce que l'on peut s'attendre justement de cette visite? Est-ce que c'est un coup de com' ou pensez-vous que c'est vraiment une façon de lancer la coopération entre ces différents pays, M. Dr Agali Wole?
C'est une question très pertinente et ça pose et ça demande assez de réflexion. Et comme on le dit, on ne doit pas prendre ces visites à la légère. Et on doit les analyser en profondeur. Et la question, elle est fondamentale. Imaginez, en un laps de temps, combien de pays viennent vers le Mali? Pourquoi ce moment choisi? Est-ce qu'ils se sont parlé? Est-ce qu'ils se rendent compte peut-être des insuffisances dans les différentes communautés dans lesquelles ils sont? Est-ce qu'ils se rendent compte de leurs horreurs? Et dans tous les cas de figure, et je trouve que c'est le Mali qui est dans une posture de pouvoir faire le bon choix. Parce que si tout le monde converge vers notre pays, ça veut dire qu'il y a une remise en cause. Ce n'était pas le cas il y a quelques mois, quelques années. Et c'est le contraire. Et le Mali et l'AS a fait des efforts, en fait, souvent, pour amener les gens à se comprendre. Et c'était le contraire. On nous a même souvent abandonnés en plein vol. Et pour des raisons communautaires, pour des raisons peut-être stratégiques. Et ce qu'on ne doit pas occulter, nous sommes dans un moment d'ensemble qui n'est pas seulement en Afrique. Les questions économiques et géopolitiques sont d'une certaine envergure qu'il faut prendre l'exhaustivité des informations. Et pourquoi ce mouvement vient cadencer en un laps de temps? C'est la grande question. Et vous savez, au jour d'aujourd'hui, la crise au niveau de l'espace AES a eu des impacts négatifs sur ce pays, qu'ils le disent ou pas, sur le plan économique. Et ça a fragilisé même la compréhension sur certains comportements sur le plan social. Et ensuite, l'image qui est donnée par les pays de l'AS, qu'on les dise ou pas, qu'on l'accepte ou pas, ces pays ont donné des leaders qui ont donné une certaine valeur, une certaine confiance en Afrique à certaines communautés de se prendre en main. Cela n'est pas à occulter. C'est vrai qu'il y a des pays qu'on cite comme exemple en termes de développement, en termes d'économie. On doit retenir que le producteur a toujours besoin du consommateur. On ne doit jamais oublier que le vendeur a besoin de se conformer aux attentes de l'acheteur. Et quoi qu'il fasse, il ne peut pas laisser le Mali. Et s'il y a une erreur qu'ils ont peut-être commise, Je pense que c'est depuis le départ. Peut-être qu'ils ont minimisé le temps de ce phénomène, de cette crise. Peut-être qu'ils pensaient que les dispositions prises à l'époque allaient juste interférer, agir pour que les gens, les autorités de l'Est puissent peut-être revenir sur certaines décisions. Et je pense que c'est cause perdue aujourd'hui, parce que quand nous regardons, les pays de l'AES, en fait, sont en avance sur le plan intégration. Et parce que qui veut se développer aujourd'hui, c'est vrai que l'économie, c'est la base, mais il y a la sécurité. Et les deux vont ensemble, mais si on n'a pas une bonne sécurité, on a toujours des difficultés pour faire face à la réalité.
Okay.
Et aujourd'hui, ces différentes visites, en fait, c'est aux autorités de l'AES de savoir les utiliser.
Okay.
Avec la manière, okay, avec le respect, avec les tacts, pour qu'on puisse avoir le compromis. Parce que c'est de là ce qu'il s'agit, pour que chaque communauté puisse défendre ses propres intérêts. Parce que nous sommes dans une communauté, qu'ils le disent ou pas, nous sommes la même communauté de tous ces pays. On a des Maliens dans tous ces pays, comme ils ont des situations chez nous. Et nous avons des intérêts centraux que nous devons protéger.
Okay.
Donc, on ne doit pas faire poser des actes d'émotion.
Okay.
Et les autorités, quand je prends l'exemple du Bénin, il a fait le tour de tous les pays. En même temps, il a invité les différents présidents à aller chez lui. Pour quelles raisons? Et c'est pourquoi chaque pays, précisément notre pays, ils doivent analyser. Je sais qu'ils ont des diplomates chevronnés, et c'est des choses qui doivent être analysées.
D'accord.
Avec toute la lucidité,
okay,
pour prendre les bonnes décisions en la matière.
Prendre les bonnes décisions en la matière. Justement, vous parlez de ces visites ces derniers temps, toutes choses qui prouvent que ces pays-là, en tout cas, ont de l'intérêt pour le pays. Une autre visite, c'était celle du l'émissaire du président Mahmoud Ould Ghazouani de la Mauritanie, qui a dépêché son ministre des Affaires de la Défense auprès du président de la transition nationale de l'armée, Assimi Goïta, pour lui remettre un message. C'est aussi une visite dont on doit se réjouir, c'est ça?
Le cas spécifique de la Mauritanie, comme vous le savez, avec déjà les différentes attaques que nous avons suivies, il y a des accusations mutuelles. Et c'est vrai que à la matière, le répondant qui vient, le ministre de la Défense, donc on met l'accent forcément sur les questions sécuritaires, sur les questions de la défense, en tant qu'analyste. Et pourquoi ce moment choisi? Est-ce qu'ils se sont rendus compte peut-être de certaines difficultés qu'il fallait aplanir? Est-ce que c'est pour donner peut-être la confiance en nos autorités par rapport à leur collaboration? Est-ce que c'est pour sauvegarder leurs propres intérêts, comme je l'ai dit à l'entame tout de suite? Parce que c'est des démarches diplomatiques et c'est des démarches qu'il faut analyser. Et c'est pour dans la gestion, je le sais déjà, nous avons des autorités qui sont dans la plus grande discrétion, c'est de prendre l'information, de voir qu'est-ce qu'il faut en la matière. Et notre position, la fermeté ne doit pas changer. Et chaque pays doit rester ferme par rapport à sa posture. Et même ces visites, on les respecte. On doit les respecter. Et jusqu'à ce qu'il y ait un compromis par rapport à l'objectif de ces différentes missions. Et je pense, si j'ai un message à donner, parce que souvent, à travers ces visites, nous savons souvent certains dans l'émotion, dans l'euphorie, donnent des réactions souvent négatives. Et nous, on doit sortir de cette position, de cette posture. Nous devons aller dans la logique de la positivité. Tout ce que nous faisons, qu'est-ce que nous pouvons prendre pour faire avancer nos différentes communautés? Et qu'on les dise ou pas, nous sommes, même si on est dans les pays différents, on voyage, on est ensemble, on est dans les activités, et nous devons avoir une démarche progressive permanente dans les actions positives.
Okay.
Et qu'est-ce qu'on peut prendre de bon dans ces différents contacts que nous avons eus au Mali,
okay,
et précisément sur le plan sécuritaire. Et pour moi, c'est une opportunité au Mali, c'est une opportunité des pays de l'Est de recentrer encore par rapport à leur vision, par rapport à leur posture, certains éléments d'éclaircissement pour que les gens puissent mieux comprendre et qu'on soit ensemble, même si on n'est pas forcément dans certaines communautés, même si on n'est pas forcément dans certaines visions, mais quel est l'intérêt commun qu'on peut sauvegarder par rapport à tous ces pays.
Très bien. Abdoulaye Traoré, cette visite du président, de l'émissaire du président Mahmoud Ghazouani de notre pays, alors on sait très bien que ces derniers temps, les relations entre la Mauritanie et le Mali n'ont pas été aussi douces. On sait très bien qu'il y a eu beaucoup de bruit autour, en tout cas notamment la zone frontalière. Alors qu'est-ce que cette visite présage selon vous?
Bon, mon avis, rien qu'en voyant la qualité de l'émissaire, c'est le ministre mauritanien de la Défense. Je crois qu'il a été reçu en même temps qu'accompagné du ministre délégué auprès du ministre de la Défense du Mali, le général de division Omar Diarra. qu'il était porteur d'un message du président mauritanien au président malien. Bon, le contenu de ce message n'a pas été dévoilé. Mais tout porte à croire que c'est des questions sécuritaires qui ont été discutées au regard même de la qualité de l'émissaire. Voyez-vous, en réalité, le Mali et le Mauritanie traversent depuis fort longtemps une crise sécuritaire qui ne dit pas son nom. Et la Mauritanie abrite non seulement en fait, des réfugiés maliens, le camp des Béas, comme vous le savez, et souvent, peut-être qu'on profite souvent de ces camps-là pour un peu cacher aussi les. Qui constituent un peu le repli stratégique aussi de certains terroristes sur le territoire malien. Et je crois qu'il va falloir que la Mauritanie et le Mali jouent carte sur table et jouent clairement parlent clairement le langage de la vérité. Et vous savez, en 2014, pour vous dire à quel point la Mauritanie est engagée dans cette affaire, en 2014, lorsqu'on a attaqué Kidal, je crois que c'est le président mauritanien d'alors qui est venu jusqu'à 72 heures après l'attaque de Kidal, lorsque le président, enfin le premier ministre Mara a quitté Kidal. Je crois que c'est lui qui est venu, il venait même de Addis Abeba lors d'un sommet de l'OIA, mais il a atterri à Kidal, sans encombre et sans aucune difficulté. Je crois qu'il a dû faire le médiateur pour trouver la solution. Je crois qu'il a été entendu. Parce qu'entre certaines franges terroristes et la Mauritanie, je crois que c'est un peu la lune de miel. Vous savez, la Mauritanie a vécu ce que le Mali vit aujourd'hui. Mais si la Mauritanie a pu trouver la solution, c'est parce qu'il y a forcément un protocole d'accord entre la Mauritanie et ces terroristes-là aujourd'hui. La Mauritanie n'a jamais, c'est comme le cas de Burkina Faso à l'époque, en pleine crise terroriste, Blaise, alors président, le Burkina n'a jamais été attaqué. Ça veut dire qu'il y avait un protocole sûrement d'entente entre le président d'alors, le Blaise Compaoré, et le président et certains mouvements armés et certains terroristes qui faisaient en sorte que le mouvement et le Burkina Faso étaient à l'abri de ces attaques terroristes et de ces mouvements armés. Mais aujourd'hui, pour la Mauritanie, non seulement il y a une crise avec le Mali, non seulement une crise sécuritaire, mais une crise aussi de tracasserie routière, une crise aussi même par rapport à la gestion même de l'UMVS. Vous savez, jusqu'à présent, on avait prévu pour mars le coup d'envoi de dragage du fleuve du Sénégal. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Parce que tout simplement, il y a certaines choses. Mais là, il y a des raisons judiciaires aussi. Et le Mali, tout récemment, sauf erreur de ma part, a dû négocier sa voix pour la Mauritanie, pour que le candidat mauritanien puisse être à la présidence de la Banque africaine de développement. En retour, le Mali a demandé à ce que le CICE puisse purger le reste de sa peine au Mali. Effectivement, n'importe quoi a été trouvé et que le CICE actuellement à Kiyoruba pour purger le reste de sa peine. Voyez-vous qu'il y a trop de problèmes entre le Mali et la Mauritanie, que ce soit d'ordre sécuritaire, d'ordre judiciaire. Mais je crois que pour un pays voisin comme la Mauritanie, il va falloir vraiment qu'on puisse prendre langue et dire réellement ce qu'on a sur le cœur et quelle voie ils ont moyen de trouver pour que vraiment les Maliens qui sont en Mauritanie puissent vivre en paix, okay. Et que les Mauritaniens aussi qui sont au Mali puissent vivre en paix. Oui, ça ne part pas sans concession de part et d'autre. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Okay. La Mauritanie ne va pas se déplacer, le Mali ne va pas se déplacer. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Okay. Et forcément, il va falloir qu'on puisse vraiment parler le langage de la vérité pour que vraiment... pour de bon et pour toujours, ces deux peuples puissent vivre en paix.
D'accord. Oui, de faire en sorte que nous puissions vivre en paix, ce n'est pas que seulement sur le plan sécuritaire, même si nous savons très bien qu'entre le Mali et la Mauritanie, prêtez-moi l'expression, si je ne m'abuse, quand même, il y a une frontière de 2000 km entre nous. Alors, mais au-delà de l'aspect sécuritaire, M. Abdallah Yattara, il y a aussi des questions humanitaires, mais également économiques. Vous l'avez rappelé tantôt, ce sont des milliers de Mauritaniens qui vivent chez nous et vice-versa aussi. Alors, quel est justement l'enjeu, sinon, quel peut être l'enjeu humanitaire et économique pour les deux États?
Juste, comme je l'ai dit, ces deux pays sont condamnés à vivre ensemble. Et forcément, je l'ai dit, quand vous parlez de questions humanitaires, c'était le cas par rapport au CICE dont je vous ai parlé, et dont vraiment la libération a été négociée pour purger le reste de sa peine à Kiyoruba. Et forcément, il y a beaucoup de Maliens qui se trouvent abusés, enfin, qui se trouvent un peu abusés humanitairement par rapport non seulement au camp de réfugiés, mais par rapport à des Maliens même qui vivent même sur le territoire mauritanien. Vous savez, 2000 km² et 2000 km, ce n'est pas facile à sécuriser entre les deux pays. Donc forcément, il peut y avoir de part et d'autre des problèmes. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, rien ne vaut que le langage de la vérité. Aujourd'hui, je ne vois pas comment un État peut soutenir des mouvements terroristes, des mouvements armés par rapport à un autre État. Je crois que la Mauritanie est dans cette posture-là. Il faut que la Mauritanie sorte de cette posture-là. Je crois que c'est vrai pour d'autres pays, peut-être qu'on y reviendra, mais forcément, le langage de la vérité doit être tenu. Il faut que les Maliens qui vivent en Mauritanie doivent se sentir chez eux, et que les Mauritaniens aussi qui vivent au Mali doivent aussi se sentir chez eux. Et ça, ça ne va pas forcément sans le langage de la vérité. Et aujourd'hui, les Maliens traversent beaucoup de difficultés. On a vu souvent des éléments vidéo qui vont se fier à ça, mais des gens qui partent travailler là-bas, qui sont pratiquement dépossédés de leur bien au moment où ils décident de retourner, ou souvent les convois de camions qui quittent le territoire mauritanien pour le territoire malien, ou des convois de camions aussi qui quittent le territoire mauritanien pour le territoire malien pour le territoire malien, sont souvent victimes de tracasseries routières. Et je crois qu'il va falloir, mais force est de reconnaître que la Mauritanie aussi, à un moment donné où la CEDEAO nous avait imposé un embargo, la Mauritanie et la Guinée nous ont ouvert leurs ports. Et ça, c'est de telles coopérations dont on a besoin. D'accord. Et on nous saluant de passer la Mauritanie à l'époque, d'accord, qui n'a pas suivi la CEDEAO par rapport à ses sanctions, d'accord, et qui a permis en sorte que nos cotons maliens puissent transiter par le port mauritanien. Et merci aussi à la Guinée pour ça. C'est de telles relations dont nous avons besoin. D'accord. Et je crois que la Mauritanie doit comprendre que ces deux pays-là sont condamnés à vivre ensemble, d'accord, et que des cas comme ça, c'est de cette manière, ce qui s'est passé par rapport aux sanctions de la CEDEAO, c'est ce même cas qui doit aussi se poser par rapport aux terroristes et aux moins amis qui se sont hébergés là-bas. Donc on joue franc jeu par rapport à ça.
D'accord, une coopération alors sincère. Oui, M. Badou Sidi Koba, Abdallah parlait tantôt de langage de la vérité. Il demandait même qu'on joue carte sur table. C'est ce que beaucoup de Maliens aussi se disent aujourd'hui. Sauf que d'autres Maliens se posent la question. Oui, c'est bien d'envoyer des émissaires le matin pour en tout cas essayer de revoir la coopération afin que en tout cas les deux pays puissent collaborer ensemble. Mais cependant, on a quand même l'impression qu'on reçoit des émissaires le matin, mais les soirs au tomber de la nuit, c'est souvent des actes qui sont posés, qui ne disent pas leur nom. C'est en tout cas ce que beaucoup de Maliens se posent la question. Vous envoyez des émissaires pour nous rencontrer les autorités le matin et le soir. Vous êtes de connivence aussi avec certains groupes qui nous créent des problèmes dans notre pays. En tout cas, beaucoup de Maliens se posent cette question, c'est un dilemme.
Oui, vous savez que en dépêchant le ministre de la Défense, Oulahinana, je peux me tromper, c'était M. Dominique que le président mauritanien a envoyé. Je dirais que ce n'est pas un fait de hasard. Et le ministre de la Défense a eu à diriger le G5 Sahel. Dans les rumeurs de parler, on dit même que la Mauritanie veut faire ressusciter le G5 Sahel. C'est la Mauritanie est à l'origine de la dislocation du G5 Sahel parce que la Mauritanie agit au nom d'une certaine puissance étrangère. Au-delà de cela, il a rappelé que les frontières sont poreuses. L'armée malienne est en passe d'expulser les groupes terroristes de son territoire. Or, nous savons tous que la forêt classée du Warodou est un sanctuaire terroriste. Ensuite, il y a le camp de réfugiés d'Embera. Or, récemment, des terroristes ont témoigné qu'ils ont été soignés en Mauritanie. Toute chose qui a agacé les autorités de Bongo. Donc pour les Mauritaniens, il fallait envoyer cet émissaire-là rapidement pour essayer de mettre les points sur les i et démontrer aux Maliens qu'à aucun moment la Mauritanie n'a soutenu les groupes terroristes. Il faudrait aussi rappeler que le Mali a fait beaucoup de concessions à la Mauritanie du temps du président Amadou Toumani-Touré. On se rappelle bien que c'est une opération militaire franco-mauritanienne qui a été opérée et qui a malheureusement entraîné la mort de l'otage Michel Germano. La France et la Mauritanie et le Mali ont mené des opérations conjointes appelées Benkan dans la forêt classée du Ouagadou sous ATT. Et le jour même du cinquantenaire, pendant qu'Ould Abdelaziz, le président mauritanien, était là, l'aviation mauritanienne a bombardé une colonne de forêts, les prenant pour des combattants d'Al-Qaïda à Tinacha, à 100 km de Tombouctou. Donc, la Mauritanie, à un moment donné, voulait même tourner les talons au Mali et à l'Afrique de l'Ouest en allant se retrouver au sein de l'Union du Maghreb arabe. C'est là où le colonel Mamadou Kadhafi les a dit que c'est des bédouins fatigués. Après, ils sont revenus frapper aux portes de la CEDEAO. Donc, les Mauritaniens ont compris qu'ils ne peuvent pas aller sans le Mali. Parce que le Mali et la Mauritanie, historiquement, par là, sont unis, surtout quand on tient compte de l'Empire du Ghana. Il y a la wilaya de Guinée-Maka en territoire mauritanien. Ethniquement par là, les deux pays sont liés. Donc, les deux pays sont condamnés à vivre ensemble. Même si la Mauritanie a toujours jugé double jeu par rapport à la lutte contre le terrorisme. Parce que beaucoup l'ont dit, les Mauritaniens ont signé un deal avec les terroristes pour pouvoir se mettre à l'abri. Et d'ailleurs, c'est les services secrets américains qui ont fait cette révélation. Sinon, je me rappelle bien, en 2008 ou en 2009, la base militaire de Bassikouna a été attaquée. Plus d'une soixantaine de soldats mauritaniens ont été tués. Le Mali a combattu à la douleur de la Mauritanie. Et c'est là où le président Amadou Toumanturé a même proposé la mise en place du CEMOC et la mise en place de mécanismes opérationnels pour permettre aux deux armées de traverser les frontières et traquer les terroristes. Donc le Mali a fait beaucoup de concessions à la Mauritanie, mais la Mauritanie n'a pas su récompenser le Mali. Dans un passé récent, quand la Mauritanie avait des problèmes avec les combattants du Front Polisario, Mokhtar Ouldada, qui était l'ancien président de la Mauritanie, a même envoyé des émissaires à Bamako pour dire à Moussa Traoré vraiment de cesser de soutenir le Front Polisario. Moussa, en réponse, il a dit que le Mali n'a jamais soutenu le Front Polisario. Et les nombreux Mauritaniens avaient mis en place un mouvement qui s'appelle les Forces de libération africaine de Mauritanie, FLAM. Et ils sont venus chercher refuge au Mali. Et à partir du territoire malien, ils ont voulu commencer à attaquer. À partir du territoire malien, ils ont voulu commencer à attaquer la Mauritanie. Je crois que le président qui dirigeait le Mali à l'époque les a dit niet. Donc, c'est aux Mauritaniens aujourd'hui de s'arracher, de comprendre que si le Mali parvenait à expulser les touristes demain, c'est eux qui vont servir, et c'est eux qui sont les hôtes de ces terroristes. Les Mauritaniens le savent. Or, la Mauritanie ne fait que 5 millions d'habitants. Et le poids que le Mali a supporté dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, si c'est la Mauritanie, maintenant, on trouve que les Mauritaniens ont traversé l'océan pour aller en France. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que les Mauritaniens commencent à ouvrir les yeux, commencent à comprendre que l'armée malienne est en train de piéger dans la lutte contre le terrorisme. Donc, il faut impérativement se rapprocher de Bamako et des autres pays de l'AS pour qu'ensemble, on puisse circonscrire le phénomène. Parce qu'en visitant le Mali, le ministre mauritanien de la Défense a quand même visité un pays de l'AS. Et si je ne me trompe pas, il a été dans un autre pays de l'AS. Donc, c'est une façon de dire que nous sommes condamnés à cheminer ensemble. On l'a toujours dit, le terrorisme est transnational. Le terrorisme n'a pas de frontières, le terrorisme n'a pas d'ethnie, n'a pas de race. Le terrorisme est capable de frapper partout. Le terroriste est capable de frapper partout. Vous avez vu ce qui s'est passé à Niamey. 11 membres de forces de sécurité ont été tués, 2 civils ont été tués, 22 assassins ont été tués. L'armée nigérienne a pourtant pris toutes les dispositions pour enrayer cette attaque. Il faudrait aussi rappeler que vers Tillabéri, on a retrouvé le corps d'une cinquantaine de soldats nigériens. Donc c'est pour dire que la Mauritanie et les pays de l'AS, plus que jamais, et les autres pays de la CEDEAO doivent attacher la ceinture pour lutter contre le terrorisme.
Très bien. Oui, docteur Ali Diagali, c'est une démarche salutaire, cette visite du ministre de la Défense mauritanien dans notre pays. Mais comme Badou Sidi Kouba l'a si bien dit, beaucoup de Maliens, comme je l'ai si bien dit aussi, pensent que la Mauritanie, contrairement au vœu de Abdallah Yattara, ne joue pas franc jeu et qu'elle est pratiquement dans une posture de double jeu.
Effectivement, c'est une bonne démarche déjà, le fait de venir voir nos autorités. Et c'est à ce niveau que la diplomatie, c'est-à-dire, doit montrer son impact, joue pleinement son rôle. Et tous ces faits qui sont donnés dans la presse ou bien dans les communautés, que ce soit officiel ou informel, les informations réelles, normalement, les autorités doivent les avoir. Et qu'il y ait une complicité par-ci, par-là, ils doivent avoir toutes les preuves. Parce que quand on est responsable, on doit avoir des faits. On doit avoir des preuves par rapport à certaines informations. Et c'est à ce niveau, c'est pourquoi je disais, c'est une posture de force que nous avons aujourd'hui. Et si nos autorités saisissent avec la diplomatie, avec les tacts, avec la discrétion, qui font partie des attitudes correctes pour avoir le compromis, et je pense que c'est à ce niveau que le jeu doit être fait. Et la perception des autres, en fait, on ne peut pas empêcher les gens d'interpréter. C'est ça aussi. Et quel que soit un événement, chacun aura sa version. Voilà. Et même si je demande tout de suite la couleur de ces bics-là, ce n'est pas évident qu'on ait la même information que nous allons donner. Et si nous comprenons cela et que nous prenons du recul et qu'on soit dans l'objectivité, je pense que nous pourrons tirer profit de cette démarche de la Mauritanie vers le Mali. Et je pense que c'est à cela que nous devrons travailler. C'est là où les autorités doivent saisir l'opportunité. C'est pourquoi je dis que c'est une opportunité, parce qu'ils ont déjà toutes les informations. Et avec ces informations, c'est de prendre point par point tous les problèmes qui sont peut-être qu'ils sont diagnostiqués, de prendre comment trouver des solutions. Et je pense que c'est à cela qu'ils sont en train de travailler. Même s'ils ne le disent pas, parce que c'est une diplomatie, on est obligé d'être dans la discrétion. Et si la Mauritanie aussi prend sa valise pour venir au Mali, c'est-à-dire qu'ils voient un intérêt à sauvegarder. Comment sauvegarder leur propre intérêt? C'est pourquoi ils font cette démarche. Et dans cette situation, c'est les deux pays qui vont gagner. Quoi qu'on dise, parce que Et comme je l'ai dit, nous sommes tous la même communauté, qu'on le dise, c'est la colonisation qui nous a séparés. Et nous devrons gérer, et surtout nos autorités. Toutes les autorités de ces deux pays doivent faire, c'est-à-dire, abstraction et d'agir pour l'intérêt de leur pays, sans tenir compte des connexions inutiles. Parce que malheureusement, ce que nous constatons, il y a certains responsables, ça existe partout, qui n'agissent pas par rapport à leurs propres convictions et qui ont des influences souvent dictées sans tenir compte de l'intérêt de leur population. Et si chacun voit l'intérêt des communautés, de nos différentes communautés, et je ne vois pas comment on n'aura pas une solution la meilleure, la plus fiable et la plus pérenne. Et malheureusement, c'est ce qui manque à beaucoup de nos responsables dans la sous-région. Parce que certains se font influencer, qui les disent ou pas, on le sait, hein. Nous le savons. Et les gens, l'éducation déjà que nous recevons, les institutions que nous fréquentons, les gens sont formatés, qui les disent ou pas, on le sait. Les gens suivent même certaines ascensions liées à leur posture, parce qu'ils sont avec X, ils ne sont pas avec Z. Nous le savons tous. Et quand ces personnes viennent, ils font l'affaire de X et de l'affaire Y. Et c'est pourquoi cette démarche qui est entre les deux pays voisins, des pays frères, des pays amis, et je pense qu'on ne peut que gagner.
D'accord.
Et c'est à nous de prendre avec force cette opportunité. Et c'est pourquoi je disais tout de suite, quand les gens interprètent dans la population, ça c'est leur jugement, mais laissons les autorités faire leur boulot.
D'accord.
Ils ont tous les informations fiables, okay, sur quel élément, est-ce qu'il y a une complicité de la Mauritanie ou pas, est-ce qu'ils ont une preuve pour montrer qu'il y a telle agression par-ci, par-là, que ce soit des deux côtés, je pense, avec les preuves, ils peuvent discuter.
D'accord.
Et c'est de ça qu'il s'agit, et pour qu'on puisse avoir vraiment un consensus, un compromis, pour que les deux pays puissent gagner.
Très bien. Oui, c'est ça le verre le plus absolu. Alors, justement, pour que les deux pays puissent profiter et gagner. Badossi Likouba, de la relation avec un pays, on va avec notre pays voisin, la Côte d'Ivoire, nous savons très bien, tout comme la Mauritanie, que les relations ne sont pas aussi... aussi que ça. Nous nous réjouissons d'ailleurs de la libération de Aziz Lantoba, qui a été libéré selon les sources de Issiaka Tamboura. Nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle déjà. Alors oui, les relations maliano-ivariennes, parlons-en un peu. Le ministre de la Défense, qui est aussi vice-premier ministre de la Côte d'Ivoire, Tenei Ibrahima Ouattara, lors du salon de l'Eurostatory, qui est un salon dédié justement à la promotion, hein, on va dire, de l'armement. Alors, a tenu des propos selon lesquels il dit, un salon dédié à l'armement, je l'ai dit, qui est des propos, voilà, pour parler justement d'une éventuelle coopération sécuritaire, en tout cas que la Côte d'Ivoire serait prête au moins, en tout cas, à coopérer avec le Mali et le Burkina Faso, notamment sur le plan sécuritaire. Parlons déjà de la démarche. Mais la Côte d'Ivoire, elle pouvait aussi faire comme la Mauritanie, envoyer un émissaire auprès du président de la transition, le gendarme Assimi Goïta, plutôt que de s'adonner à une déclaration, surtout hors de nos frontières. Que pensez-vous déjà du cadre au cours duquel ces propos ont été tenus?
L'effet d'annonce de Tenei Ibrahima Ouattara, que nous appelons photocopie parce qu'il ressemble beaucoup au président Alassane Dramane Ouattara, je crois qu'il faut prendre ça au sérieux. Et en disant cela, Tenei veut réellement réunir le dialogue avec le Mali sur le plan sécuritaire. Là, certes, la Côte d'Ivoire a fourni des efforts pour sécuriser ses frontières au niveau du Mali et du Burkina, mais cela n'est pas suffisant. Les terroristes, comme je l'ai toujours, n'ont pas de frontières. Donc, le phénomène terroriste est transnational. Il le sait très bien, il ne l'ignore pas. Et il sait qu'en matière d'expérience et d'expertise, le Mali aujourd'hui occupe le devant de la scène, en en déplaise à mes détracteurs. Mais cette main tendue aussi explique que la Côte d'Ivoire aujourd'hui fait que les services secrets des différents pays collaborent en matière sécuritaire pour traquer le terrorisme. Parce que c'est vrai que la Côte d'Ivoire a fait de son mieux, mais il y a des cellules dormantes en Côte d'Ivoire. Et ces cellules dormantes ont des ramifications au Mali. Donc il faut démanteler ces réseaux-là. Je me rappelle bien quand il y a eu l'attaque de Grand Bassam, la Côte d'Ivoire et le Mali ont collaboré. À l'époque, Ibeka a dépêché le général Didier Dakou qui a ratissé la forêt classée de Saman parce que cette forêt abritait une katiba qui était dirigée par un certain Souleymane Keïta. Donc depuis, il y a eu une certaine accalmie parce que la veille, les localités de Missène et de Fakola avaient été attaquées. Mais avec les efforts conjugués des fanciers des forces armées maliennes, la solution a pu être trouvée. Donc Tenei Ibrahima Ouattara veut dire collaborant d'abord sur le plan sécuritaire. Mais il faudrait rappeler qu'il y a 5 millions de Maliens au Burkina, en Côte d'Ivoire. Ensuite, il faudrait rappeler historiquement par là que lorsqu'on a eu des problèmes avec le Sénégal lors de l'éclatement de la Fédération du Mali, quand la République fédérale d'Allemagne a accepté de nous donner des camions Krupp, au fait, Boeing a ouvert ses ports. Et c'est grâce à l'ouverture de ces ports qu'on a pu transporter nos marchandises. D'ailleurs, ce n'est pas un fait de hasard si à l'époque, Mouribo Keïta a envoyé en mode Ampataba comme ambassadeur auprès de Félix au fait de Boeing. Donc, ça a vu tout son sens. Donc, la Côte d'Ivoire et le Mali sont condamnés à travailler ensemble. Et je me rappelle bien, quand on était tout petit, à Missénie, on était tout petit, à l'époque, le vieux était sous-préfet là-bas. Et en début, pendant la saison froide, les caterpillars, les camions ivoiriens venaient réparer les pistes hydrauliques. Nous, on s'amusait à dire CI1, CI2, CI3. Donc, c'est pour dire qu'entre la Côte d'Ivoire, c'est pour que quand je vois les gens qui n'ont jamais dépassé chez nous, qui insultent les Ivoiriens, ils ne connaissent pas les liens historiques qui lient les TP. Nous sommes liés par l'histoire de la géographie. Donc, chaque année, les TP ivoiriens viennent réparer les pistes hydrauliques. Ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a un lien fort entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Vous partez dans le Ouarzazate, dans le Poro, dans le Tchouadougou, dans le Tchouadougou, c'est les mêmes qu'il nous faut. Donc, de part et d'autre de la frontière, c'est les mêmes langues qu'on parle. Donc, nos deux pays sont liés. C'est pour que je suis agacé quand je vois des gens se mettre à table pour insulter les Ivoiriens. Quand je vois des Ivoiriens insulter le Mali, ils ne comprennent pas les gens. Le Mali et la Côte d'Ivoire sont deux pays liés. Donc, tenez bien en cette main tendue. Je crois que c'est une très bonne chose. Cette main tendue doit être saisie par nos autorités pour qu'ensemble nous puissions lutter contre le tourisme.
Mais qu'en est-il de la forme de la main tendue?
Non, la forme de la main tendue. Ça dépend de l'expression que Tenet Biran Ouattara a utilisée. Okay. Donc, c'est une manière de dire que nous sommes prêts à rapprocher le Mali. D'abord, il a parlé du plan sécuritaire. Si sur le plan sécuritaire, les problèmes sont résolus, les autres problèmes sont résolus, il faudrait aussi remercier les autorités ivoiriennes. Parce que depuis que les terroristes ont commencé à incendier nos citernes, les autorités ivoiriennes, comme du port d'Abidjan jusqu'à la frontière, sécurisent nos convois avec tous les moyens dont elles disposent. Donc, c'est une manière de dire que si le Mali est en difficulté, la Côte d'Ivoire aussi est en difficulté. Et pour vous rappeler que le 11 janvier 2013, pour que l'opération Serval soit une réalité au Mali, il a fallu qu'Alassane Dramane Ouattara pèse de tout son poids. Il a fallu qu'il arrive à convaincre François Hollande pour que la France dépêche ses troupes pour stopper la progression des terroristes vers Bamako.
D'accord. Ok, c'est une autre soirée. Sinon, on sait très bien qu'aux premières heures aussi de la transition, nous avons quand même vu que le général Darmi aussi avait offert en tout cas des présents à son aîné, le président
Ouattara,
en tout cas de façon officielle. Alors oui, M. Abdoulaye Ouattara, cette déclaration du ministre, vice-ministre, nommément ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, Thierry Ibrahima Ouattara, par rapport à une coopération sécuritaire entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, est-ce que nous devrons saisir cette main tendue?
À mon avis, oui. Que, puisque les relations du Mali avec la Mauritanie, que nos relations avec la Côte d'Ivoire sont des relations très, 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 très solides, historiquement et même actuellement. Et je crois, comme on le dit généralement, la politique n'est autre que le concentré de l'économie. Et, vous savez, le Mali demeure jusqu'à présent le deuxième partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Et le Burkina Faso demeure le premier partenaire économique aussi de la Côte d'Ivoire. Par rapport même à l'exploitation du port d'Abidjan. Vous comprenez? Et le Mali, c'est à peu près 900 à 950 milliards d'échanges commerciaux par an, malgré cette crise diplomatique, malgré souvent cette crise sécuritaire, c'est à peu près 1000 milliards, je veux dire, d'échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire. C'est très difficile. On peut avoir des différends avec la Côte d'Ivoire, mais je crois qu'on doit privilégier la voie du dialogue, la voie même du compromis. Je crois que, à mon avis, la Côte d'Ivoire n'a jamais servi de base arrière par rapport aux mouvements armés, encore moins par rapport aux terroristes. Bon, peut-être que souvent les dissidents politiques se retrouvent en Côte d'Ivoire. Bon, je crois que ça s'est fait, on n'a jamais dit ça. Sous Moussa Traoré, le dissident politique s'est trouvé à Dakar, au Sénégal. Et à un moment donné, au plus fort de la crise ivoirienne, souvent les dissidents ivoiriens aussi se trouvaient aussi sur le territoire malien aussi, vous comprenez. Mais ça n'a jamais, entaché nos relations historiques. Donc on doit privilégier entre ces différents pays la voie du dialogue. Et nous sommes tenus, et regarde, même lorsque l'essentiel de nos carburants venait du corridor Bamako-Dakar, mais lorsque ce corridor a été mis en difficulté, la Côte d'Ivoire n'a jamais fermé son corridor, pratiquement. On a ouvert non seulement le corridor Bamako-Abidjan, mais Bamako-Kadjana, Bamako, San Pedro aussi en passant par Kadjana.
Et je crois qu'on doit comprendre ces éléments-là qui doivent rentrer en réalité en considération au moment de prendre des décisions. Pour nous, on ne doit pas avoir de crise sécuritaire avec la Côte d'Ivoire. Parce que tout simplement, et c'est un pays avec lequel on a tissé beaucoup de relations, à travers même les différents présidents du Mouro qui était jusqu'à aujourd'hui à Simi. Et je crois que, à mon avis, la main tendue du ministre ivoirien de la Défense doit être saisie pour qu'on puisse vraiment sortir de cette crise diplomatique. Parce qu'on n'a jamais eu de crise sécuritaire avec la Côte d'Ivoire, mais qu'on sort de cette crise diplomatique. Souvent, ça part du fait que, à mon avis, il y a eu une certaine compréhension par rapport au traitement de certains sujets. Et je crois que, à mon avis, on doit tenir compte de l'expérience du président ivoirien qui, à mon avis, ne considère pas le Mali, encore moins le Burkina Faso, comme des ennemis. Vous savez, il a passé une partie de ses études, même une partie de sa carrière au Burkina Faso, vous comprenez. Et on a même dit qu'il a été, on a nommé gouverneur de la BCAO quand il était voltaïque, Burkinabé après, vous comprenez. Ça veut dire que ces trois pays ont des relations très fortes. Et le Burkina a la plus forte colonie en Côte d'Ivoire, vient après le Mali. Donc, Burkinabé et le Mali ont confondu, c'est à peu près 10 millions en Côte d'Ivoire. Je crois que, compte tenu de toutes ces relations, on doit mettre bas la terre et s'asseoir, discuter. Et c'est de ça que ces trois pays, et en réalité, avoir de bonnes relations. Moi, je comprends souvent le président burkinabé, et il a dit que lorsque l'actuel ministre de la Défense, le vice-premier ministre burkinabé, Tenen Brahim, est parti en Turquie, il a fait pression sur la Turquie pour que la Turquie ne puisse pas livrer des drones au Burkina Faso. Je crois qu'il a, à travers la gorge, c'est ça. Et je crois que de telles attitudes aussi ne doivent pas venir d'un ministre ivoirien de la Défense. Je crois qu'il doit se ressaisir par rapport à ça et traiter uniquement les problèmes ivoiriens avec la Turquie, mais qu'il ne parte pas au nom de quelle relation et demander à c'est que la Turquie ne livre pas de drones au Burkina Faso. Okay. Quoique souvent ça arrive, et j'aime souvent reprendre Chauvel, c'est souvent des scènes de ménage. Donc, au terme, on trouvera des solutions.
Ok, nous disons qu'au terme, nous allons avoir des solutions à ces problèmes.
D'accord. Je me rappelle bien, Alassane Dramé-Ouattara l'a dit une fois, au plus fort de la guerre ivoirienne, il a envoyé sa mère, c'est Amadou Toumanturé. C'est Amadou Toumanturé qu'il a confié sa mort. Ce n'est pas un fait de hasard. Ouais. S'il l'a fait, c'est dû aux liens séculaires et aux liens fraternels qui ont toujours uni Mali et Ivoire. Je crois qu'il est temps de fumer le calumet de la paix.
D'accord, il est grand temps de fumer le calumet de la paix pour de Badou Sidi Koba. Oui, docteur Ali, en quoi c'est quand même important pour les États, en tout cas, je veux parler du Mali et de la Côte d'Ivoire, d'avoir une coopération, sinon de la maintenir?
Que ces deux pays veulent ou pas, on est obligé de collaborer. Les pays restent, les hommes passent. Mais ce qu'il faut retenir, et c'est vrai que c'est l'annonce qui a été faite annonçant la collaboration possible avec le Mali, moi je le prends dans un contexte de séduction. Vous savez, il y a des faits réels qu'ils savent, que nos autorités savent. Il y a des faits historiques de la position géopolitique de la Côte d'Ivoire, de certains pays de la sous-région par rapport à notre communauté, qui ne mentent pas, qui sont réels, qui sont toujours d'actualité. Et quand nous tenons compte de cette même histoire, nous savons que certains pays ont joué un rôle stratégique, géopolitique, pour d'autres pays. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas du tout changé, ils continuent. Et quand ils veulent changer, on essaie de redresser pour les ramener dans leur posture. Et souvent, quand les hommes arrivent au pouvoir, leur mentalité change. Parce que le pouvoir, c'est autre chose. Dans notre contexte, et c'est pourquoi je dis, nous devons être regardants sur les communautés. C'est la même communauté. Nous avons autant de Maliens en Côte d'Ivoire comme autant de Burkinabés, même autant de Nigériens. Mais ça ne veut pas dire que c'est des sous-hommes. Il faut qu'on précise. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inutiles. Ils sont dans le système économique et ils sont importants parce qu'ils sont dans la production. Ils ne sont pas partis pour rien. Et ils sont aussi importants. C'est pourquoi je disais à l'entendre que le producteur a besoin du client. Le vendeur a besoin de l'acheteur. C'est parce qu'ils sont importants qu'ils sont là-bas. Et s'ils quittent aujourd'hui, comment ça va se passer? On ne doit pas l'occulter. On doit tenir compte de tout ça. On a besoin de l'autre obligatoirement. Et nous avons une communauté et nous sommes en réseau. Et ceux qui ne comprennent pas cela, ils vont dire oui, les Maliens sont partis. Sortons de cela. c'est parce qu'ils sont importants dans le système économique qu'on les a maintenus. Et sinon, dans certains pays, on les refoule. Et si c'est le cas, on veut les refouler. Donc, c'est pour montrer aux populations que nous devrons vraiment analyser les choses. Comment sauvegarder nos propres intérêts sans offenser et avec les meilleures manières. Et si les autorités suivent l'intérêt des populations, c'est cela qui doit être fait. Et l'annonce qui est faite, peut-être l'annonce, c'est une façon de montrer sa bonne foi. Mais il y a des efforts encore. Et je sais qu'il y a des gros efforts. Quand vous voulez céder, quand on veut draguer, c'est toujours l'annonce. Hein. La séduction commence par là. On annonce d'abord. Et ensuite, on prend les dispositions. On se prépare, on prend le rendez-vous. Et c'est pourquoi je dis que c'est une annonce de séduction. Et nous sommes à l'écoute.
Okay.
Et je pense que les autorités vont saisir. Je ne pense pas qu'ils vont refuser. Parce que nous sommes les mêmes pays, comme je l'ai dit, les mêmes communautés. Et nous savons que nous avons nos autorités. Actuellement, ils sont inversés. Et ils ont pu recevoir les autres. Je ne pense pas pourquoi ne pas recevoir la Côte d'Ivoire. Et même s'il y a des mésententes, même s'il y a des incompréhensions, cela peut être résolu. Et chacun va trouver son compromis et pour sauvegarder l'intérêt de notre communauté et l'intérêt de ces différents pays.
D'accord. Alors, d'une main tendue, nous nous dirigeons à une autre main tendue, celle de l'Algérie. Oui, le président Tebboune avait quand même aussi tendu la main de l'Algérie au Mali. Est-ce qu'aujourd'hui les autorités sont en passe de saisir cette main tendue? Après justement l'épisode du rappel des ambassadeurs, nous rappelons tous les années 2023, les ambassadeurs ont été rappelés au même courant 2025, si je ne m'abuse, les deux pays avaient rappelé leurs ambassadeurs. À ces rappels des ambassadeurs, il faut aussi rajouter, on va dire, ces prises de bec qui se sont même passées, en tout cas sur la grande tribune des Nations Unies. Nous nous rappelons tous, en tout cas, les propos de l'ambassadeur près des Nations Unies, son Excellence Issa Konforou, avec aussi son homologue, en tout cas, de l'Algérie. Et aujourd'hui, alors, peut-on parler d'un dégel, notamment avec justement la nomination d'un consul général auprès de Tamara Sett, c'est en Algérie. Nous l'avons dit, c'était le vendredi dernier au cours du Conseil des ministres que, en tout cas, les autorités ont décidé justement de nommer un nouveau, en tout cas, consul général à Tamara Sett. Abdallah Yattara, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un dégel entre l'Algérie et le Mali?
Je pense que oui. Au regard de certains éléments de ces 72 heures, je pense que oui. D'abord, par rapport à l'élément dont vous venez de parler, la nomination de hier au Conseil des ministres du Conseil général du Mali à Tamara Sett. Hier, ça s'est fait en conseil. Bien vrai que l'ambassadeur est toujours là, le général Amagadou est toujours là, bon coup. Je crois qu'à distance, il gère un peu l'ambassade jusqu'à présent. Et deuxième élément, c'est que les ambassadeurs africains aux Nations Unies, sans exception, à l'unanimité, y compris l'ambassadeur du Mali, les Nations Unies ont voté à l'unanimité l'ambassadeur algérien comme président de la Commission économique et sociale des Nations Unies. Ça s'est fait hier, je crois. Et c'est très clair, je dis bien, tous les ambassadeurs africains aux Nations Unies, y compris l'ambassadeur du Mali. Ça montre un signe de gel. Vous comprenez? Et deuxièmement, je sais peut-être la raison fondamentale, je crois que c'est quoi? Il y a une semaine, on a retiré l'Algérie de la liste grise de Gafi. Gafi, c'est quoi? C'est le groupe pour les finances publiques au monde. Et quand on est inscrit sur cette liste grise-là, ça veut dire qu'on finance, on fait le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et il n'y a pas une semaine, l'Algérie a été retirée de cette liste-là. Vous comprenez? Donc ça montre peut-être l'intérêt du Mali maintenant à bien coopérer avec l'Algérie, parce que si l'Algérie renonce au blanchiment des capitaux et surtout au financement du terrorisme, ça veut dire que c'est la bonne guerre pour que le Mali et l'Algérie puissent maintenant s'entendre. Donc voilà quelques éléments qui montrent que peut-être qu'il y a un signe de dégel, et je crois qu'à mon avis, on n'en a pas encore pour longtemps le retour de notre ambassadeur en Algérie.
D'accord. Pas de Sidi Kouba.
Je crois que le crise de la tension est en train de descendre entre le Mali et l'Algérie. Parce qu'avec la nomination de ce concile honoraire, je crois que les deux pays veulent aller vers la main tendue. Et le doyen l'a rappelé. Hier, à l'unanimité, tous les ambassadeurs ont voté pour l'ambassadeur d'Algérie pour qu'il puisse occuper ses postes. Et au-delà de cela, le Niger apparemment est en train de mener une médiation très discrète pour faire comprendre aux Maliens et aux Algériens que les deux pays sont condamnés à travailler ensemble. Vous savez, entre l'époux et l'épouse, il y a toujours des malentendus. Il arrive que l'épouse prenne ses bagages pour rentrer chez lui, mais avec la médiation, l'épouse revient. Donc c'est un peu le cas du Mali et de l'Algérie. Donc c'est deux pays, deux peuples qui sont condamnés à vivre ensemble. Et surtout qu'il y a un pacte de sang qui lie l'Algérie au Mali. Tout le monde le sait, pendant la lutte pour la libération de l'Algérie, le FLN a été beaucoup soutenu par Modibo Keïta. Modibo Keïta a envoyé armes, munitions et combattants pour soutenir les Algériens dans les luttes qu'ils ont eu à mener contre la France. Donc, tout ça fait que l'Algérie ne peut pas rompre avec le Mali. Le Mali non plus ne peut pas rompre avec l'Algérie. Et ces malentendus-là, ça arrive. Vous savez, entre la langue et les dents, souvent, il y a des problèmes. Mais il faudrait rappeler que c'est l'Algérie qui est en train de faire preuve de bon sens. Parce que quand on vous accuse de quelque chose, il faut le démentir. Et ce qui a choqué le peuple malien, le gouvernement du Mali, c'est le drone qui a été abattu côté algérien. Pendant que le drone était en train de suivre un mouvement de terroristes pour les neutraliser, et l'Algérie abat notre drone. Peut-être si le drone avait neutralisé ces farfidis-là, qui n'allait pas tomber. Donc, c'est là où le bas blesse. Donc, l'Algérie doit désormais jouer franchir. À partir du moment où le Mali a fait des gestes d'apaisement, donc l'Algérie aussi doit faire de même. L'Algérie ne doit plus accepter de servir des gîtes et d'assistance aux groupes terroristes. D'accord. L'Algérie doit les expulser, tout okay. comme la Mauritanie. En matière d'amitié, il faut être sincère. Et le Mali a toujours été sincère, mais le Mali a toujours été mal payé. Donc il est temps que nos voisins nous payent très bien. Parce que le Mali, en matière d'intégration économique, en matière d'intégration politique, en matière de questions sécuritaires, le Mali a toujours ouvert ses portes à ces pays-là. Donc il faut que ces pays-là le comprennent. Le Mali, ce n'est pas un peuple idiot. C'est un peuple pacifique, un peuple patient, mais un peuple aussi qui sait prendre ses responsabilités le moment venu.
D'accord.
Donc, que les Algériens et les Mauritaniens comprennent cela. La patience a des limites.
D'accord.
Nous, on a le sang mandingue. On a le sang sahélien. Quand ça commence à couler, bonjour les dégâts.
Monsieur Barossi de Koba, en voulant résoudre un problème à la ligne, un autre, alors voilà, soyez quand même courtois dans vos propos. Oui, docteur Ali, rapidement, par rapport à cette main tendue de l'Algérie, est-ce que c'est un dégel, on peut dire ainsi, à l'avant de la nomination du Conseil général? Rapidement, on est sérieusement pris par le temps.
La main tendue, il faut toujours la prendre avec la manière. Et comme je l'ai dit, nos pays sont liés forcément. Non par l'histoire et par des intérêts économiques. C'est un pays voisin. Qu'ils le disent ou pas, ils ont besoin du Mali, le Mali a besoin d'eux. Et comme je le disais tout de suite, les autorités ont certaines responsabilités à répondre aux besoins des populations. Et la population aussi doit comprendre et jouer son rôle pleinement. Et c'est pourquoi je dis aux gens le plus souvent d'être positifs. Chacun peut interpréter les faits. Mais quand nous voulons construire, on doit toujours dans le positif. Une fois de plus, en parlant, les actes que nous posons. Et je vais dire tout de suite, le Mali est dans une position continue de construction, de positivité. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Tous ceux qui peuvent analyser l'attitude des uns et des autres, le Mali est dans cette posture. Et la première chose, on fait l'essentiel, tous ceux qui viennent, on les reçoit. Je ne pense pas que les autorités agressent forcément. Et ensuite, il y a la connaissance, on doit connaître certains faits, okay. des faits réels, avec objectivité. Et nous savons que nous avons assez d'informations. C'est pourquoi chaque fois que je parle, je dis, normalement, les faits, les autorités doivent les avoir. Et l'action. L'action, c'est la chose la plus importante. On a beau avoir les bonnes habitudes, les bonnes attitudes, on a beau avoir les connaissances. Si l'action ne répond pas à ce qu'on veut faire, il n'y a pas de résultat.
D'accord.
Le fait que le Mali a nommé un consul, c'est un signe majeur de montrer la bonne foi du Mali.
D'accord.
Et de donner une réponse positive.
D'accord.
Quel que soit le jugement des uns et des autres.
D'accord.
Et c'est ce que je conseillerais aux autres, qu'on soit dans cette logique.
Okay.
On a besoin de l'autre,
d'accord.
quoi qu'on fasse.
D'accord.
Voilà. Personne ne peut vivre seul. La solitude, c'est pas ce qu'on doit conseiller.
On a besoin de l'autre, quoi qu'il en soit, oui, comme le dira l'autre. En tout cas, on ne peut jamais écrire noir sur noir, ni blanc sur blanc. chacun a besoin de l'autre pour se révéler véritable, en tout cas loi des temps modernes. C'est ce qui met un terme à ce débat de ce dimanche qui avait comme invité Badou Sidi Koba. Merci d'avoir accepté notre invitation et des efforts que vous ne cessez de fournir à longueur de journée pour répondre à nos différentes invitations, malgré la crise des carburants. Hein, voilà.
Merci beaucoup.
Ouais, docteur Aliouine, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Abdoulaye Yattara, merci également. Un grand clin d'œil à la grosse équipe technique qui nous a aidé à réaliser, Augustin Echoubéi, Mourlaï Touré, Moussa Haïdara, Youssouf Sangaré. Voilà, nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain dans cette même émission. Voilà, et d'ici là, nous pensons plus à nos confrères aujourd'hui hein, qui sont derrière les barreaux, à savoir Youssouf Sissoko, Shana Takiyou, mais aussi Abdourahmane Keïta. Merci, à très vite sur Djoliba TV News. Au revoir.